إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 11 dans l'explication du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim li mukhalafati ashab al-jahim, écrit par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan dans son commentaire qui s'intitule At-Ta'liq al-Qawim. Donc on est arrivé à l'explication maintenant de Cheikh al-Islam lorsqu'il mentionne le hadith. Yani, on va lire le hadith ensemble. C'est le commentaire numéro 35. Donc le hadith c'est le suivant. Le cheikh il explique, il dit: wa ma'a anna Allah qad hadharana sabilahum fa qada'uhu nafizun bima akhbara bihi rasulahu mimma sabaqa fi ilmihi haythu qala fima akhrajahu fi sahihayn an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن. Donc ça c'est le passage que des paroles de Cheikh Ibn Taymiyyah qui cite le hadith. Il dit bon, on a lu au dernier cours, on a terminé avec la parole de Sufyan ibn Uyayna lorsqu'il expliquait que ceux parmi les ulama de notre umma qui ont une corruption en eux ou qui sont devenus corrompus, ils ont une ressemblance avec les juifs. Les ulama de notre umma qui ont été corrompus, ils ont la catégorie ou la caractéristique des juifs. Ils ressemblent aux juifs. Tandis que ceux parmi les adorateurs qui se sont corrompus, ils ont une ressemblance avec les chrétiens. Et maintenant, Cheikh al-Islam, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a avertis de suivre leur voie, c'est-à-dire de suivre la voie des juifs et des chrétiens et des autres kuffars. Et son décret est exécuté parce qu'il nous a informé, ou qu'est-ce qu'il a informé ou donné comme information à son messager de ce qu'il a eu comme science. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, sa science elle est infinie. Donc il savait à l'avance qu'est-ce qui allait se produire dans l'avenir, et il nous en a averti par son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous allez suivre les exemples ou les actions des gens qui étaient avant vous, pas à pas, même s'ils rentrent à un point tel que s'ils rentraient dans le trou d'un lézard, vous seriez rentré avec eux dedans, ou bien vous allez rentrer avec eux dedans. Et le cheikh il dit ensuite, ou bien plutôt il cite la fin du hadith, les sahaba ont posé la question au messager d'Allah: parles-tu des juifs et des chrétiens? Quand tu parles des peuples qui nous ont précédés, est-ce que tu veux dire par cela les juifs et les chrétiens? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit: qala faman, c'est-à-dire qui d'autre? Hein? Si c'est pas eux, de qui d'autre est-ce que je parle? Donc il parle des juifs et des chrétiens. Naam. Donc ce hadith-là, le Cheikh Al-Fawzan il nous explique maintenant qu'est-ce que ça signifie. Il dit Allahu Jalla wa Ala hadharana min ittiba'i tariq al-maghdubi alayhim wa ad-dallin alladhina nasalu Allah an yujannibana tariqahum fa inna qadar Allah nafidh wa dhalika anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam akhbara annahu sayakunu fi hadhihi al-ummah man yushbihu hatayn at-ta'ifatayn قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم والسنن يعني الطريقة والسنن الطرق. Donc le Cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a averti de ne, yani de ne pas suivre, c'est-à-dire il nous a averti contre le fait de suivre les peuples sur lesquels Allah a mis sa colère et ceux qui se sont égarés, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous écarte de leur voie. Et Allah subhanahu wa ta'ala exécute sa prédestination. Qu'est-ce qu'il a prédestiné? Et c'est dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé cette umma qu'il y en aura dans l'avenir, c'est-à-dire il y aura dans l'avenir de cette umma des gens qui vont essayer d'imiter les deux groupes en question. C'est-à-dire parmi les musulmans, il y en a qui vont essayer d'imiter les juifs, et parmi les musulmans, il y en a qui vont essayer d'imiter les chrétiens. Al-Maghdoub alayhim wa ad-dallin. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tattabi'unna, et la tattabi'unna, il y a plusieurs dans ce hadith-là, il y a le lam au début, au début du verbe, et le noun à la fin qui vient rajouter de la force, yani, au verbe. La tattabi'unna, hein. Si tu dis la tattabi', ça veut dire tu vas suivre, hein. Tattabi'. Mais la tattabi'unna, ça c'est pour rajouter encore plus de force, c'est-à-dire vous allez, c'est certain que vous allez les suivre. Hein? Et as-sanan, at-tariqa, et as-sunan, c'est at-turuq. Donc c'est le pluriel et le singulier et le pluriel. As-sanan, c'est le singulier, et as-sunan, c'est le pluriel. Et il dit wa qawluhu hadhwa al-quzzati bil-quzza. أي قذي قذة السهم لأن السهم له قذتان متعادلتان حتى لا يميل أثناء إرساله ومعنى قذة حذو القذة بالقذة أي يشبهونهم مثل ما تشبه القذة الأخرى فلا يتركون مما يعملونه شيئا إلا عملوه فلا يتركون مما يعملونه شيئا إلا عملوه وخلاصة الأمر أنه يكون في هذه الأمة من يعمل بعمل اليهود والنصارى تماما و يعني يشبهونه يشبههم كما تتشابه قذتا السهم حتى نعم. Donc il explique le cheikh qu'est-ce que ça veut dire حذو القذة بالقذة. القذة c'est يعني je pense c'est la pointe de la flèche, ok. Puis c'est pour dire que يعني les musulmans vont imiter les juifs et les chrétiens de la même manière que ces deux flèches se ressemblent, et bien de la même manière les juifs et les musulmans vont essayer de les imiter. Et donc c'est pour montrer à quel point il y aura cette ressemblance, que quand tu compares les deux flèches, elles sont presque pareilles, mais c'est la même chose. Et on le traduit différentes façons. Moi je dis pas à pas dans le sens pour montrer que un pas ça, c'est la même chose que l'autre, c'est-à-dire tu vas yani vous allez les suivre de la même manière et puis vous allez les imiter. Donc c'est dans ce sens-là, c'est pour dire que comme le cheikh il dit, s'il n'y a pas une action que les juifs et les chrétiens vont faire, excepté que vous aussi vous allez le faire, que vous allez les imiter dedans. Donc pour résumer, le cheikh il dit vous allez faire vous allez imiter complètement l'exemple des juifs et les actions des juifs et des chrétiens. Donc le cheikh il dit hatta law dakhalu ay dakhala al yahud wal nasara juhra dabb مع أن جحر الضب معلوم أنه من أعصر الجحور دخولا وخروجا ومن أضيقها، لأن الضب يتخذ جحرا يلجأ إليه خوفا من الطلب، ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم آثارهم واتباعهم طرائقهم لو أن اليهود والنصارى دخلوا في هذا الجحر الضيق لوجد في هذه الأمة من يدخله تقليدا لهم. Donc le cheikh il dit jusqu'à ce que lorsqu'il s'il rentrait, c'est-à-dire si les juifs et les chrétiens entraient dans le trou d'un lézard, et on sait que le cheikh il dit on sait que le trou du lézard c'est un des trous les plus difficiles à entrer ou à en sortir, et c'est un des trous qui est les plus étroits, parce que le lézard il se cache dans ce trou parce qu'il a peur de se faire attraper. Il ne veut pas se faire attraper. Donc, il ne choisit pas un endroit qui est facile d'accès. Il choisit un trou qui est difficile, hein, qui est étroit, pour qu'on ne peut pas le suivre dedans. Mais, le cheikh, il dit, tellement que les musulmans vont vouloir suivre les juifs et les chrétiens, c'est tellement exagéré, c'est tellement grave, que même si les juifs et les chrétiens décident qu'ils veulent rentrer dans le trou du lézard, eh bien, tu vas trouver parmi les musulmans, il y en a qui vont essayer de vouloir rentrer dans ce trou étroit, eux aussi, pour les imiter. Il y en a, c'est pour dire que peu importe l'action qu'ils font, et même si c'est une action qui est totalement absurde et ridicule et dénigrant et rabaissant et stupide, il y en a parmi les gens qui vont essayer, il y en a parmi les musulmans qui vont essayer de les imiter dans cette action-là, malheureusement. Donc, le cheikh dit, « Walil asaf, najidul yawm, walil asaf, najidul yawm, fi hadhi, fi l'umma, man yatashabbah bil yahudi wal nasara, fi l'umura tafiha, allati la qimata laha. » Donc, le cheikh dit, qu'est-ce qui est triste aujourd'hui, c'est que tu trouves dans cette umma des musulmans qui essaient d'imiter les juifs et les chrétiens dans les affaires les plus futiles, les plus insignifiantes, les plus ridicules, qui n'ont aucune valeur. Et eux, ils veulent les ressembler. Et subhanallah, tu vois, combien tu vois de jeunes musulmans, par exemple, qui essaient d'imiter la coiffure d'un joueur de football, hein? Oui. Ou bien, je sais pas moi, n'importe quelle façon, comment ils s'habillent, comment ils parlent, comment ils bougent, comment ils arrangent les cheveux, comment les choses haram qu'ils font, tu veux les faire toi aussi. Yani, n'importe quoi, yani. Les gens sont influençables et vraiment faibles, yani, devant ça. Donc, le cheikh, il dit, « Wallati hiya mudhamma, hein, wa munqisa, wa munqisa. » وفي حين هم يعتبرونها كمالا ورقيا وحضارة وتطورا. OK, donc le cheikh il dit même que ce sont des choses qu'ils font qui sont blâmables, hein, qui les rabaissent, qui les diminuent, et eux ils considèrent que ces choses-là, au contraire, ils pensent, quand ils les imitent, les chrétiens et les juifs dans ces affaires-là, ils pensent que ça c'est la perfection. Ils pensent que c'est l'évolution, ils pensent que c'est la civilisation, ils pensent que c'est ça le fait d'être moderne, hein, d'être évolué, d'être avancé. Hein. Si tu t'habilles pas comme ça, t'es pas évolué, t'es retardé. C'est pour ça qu'il y a des musulmans, quand ils voient un autre musulman qui porte le qamis ou qui laisse sa barbe, ils disent « Ah, toi t'es pas évolué, toi t'es pas civilisé ». Hein? Toi, tu es retardé. Pourquoi? Parce que tu t'habilles pas comme les Européens et comme les Américains. Pour être évolué, il faut que tu t'habilles comme les Américains, comme les Européens. Sinon, tu es retardé. Hein? Mais le problème de ça, c'est pas seulement le fait de mettre le kamis. Lui, il a peut-être considéré ça dans le sens que pourquoi vous mettez les kamis? On est en 2013. Ça, c'est parce que cette personne-là, c'est une personne qui a un complexe d'infériorité. Tu vois, il pense que si quelque chose n'est pas européen ou américain, que c'est pas évolué, que c'est pas c'est pas moderne. Le problème aussi, c'est que pourquoi les musulmans mettent le qamis dans la mosquée, accroché dans la mosquée, quand il marche dehors, il s'habille en pantalon, puis en chandail. Il rentre dans la mosquée, il met le kamis pour faire la salat, il finit la salat, il enlève le kamis, il l'accroche et puis il sort. Pourquoi? Pourquoi il ne met pas son kamis depuis chez lui pour venir prier à la mosquée puis retourner chez lui avec son kamis? Parce que lui aussi, il a un complexe d'infériorité. Donc, cet imam qui a dit ça, de dire, par exemple, pourquoi vous accrochez un kamis dans la mosquée? Lui, il a un complexe d'infériorité. Parce qu'il pense que de porter le kamis, c'est quelque chose qui est retardé. Mais l'autre qui met le kamis juste quand il rentre dans la mosquée, puis quand il sort, il l'enlève, c'est comme la femme musulmane. Hein? C'est sûr que ce n'est pas le même degré, parce que ce n'est pas obligatoire pour l'homme de porter le kamis. Mais ça a un rapport avec la personnalité de la personne, avec sa fierté, et avec aussi le fait qu'il veut absolument ressembler à d'autres peuples. Pourquoi il veut ressembler à d'autres peuples? Pose-toi la question. Qu'est-ce qui fait que quand tu ressembles pas à un autre peuple, tu te sens mal? Puis quand tu ressembles à un autre peuple, tu te sens bien. Pourquoi? Parce que tu dénigres ta propre culture, tu dénigres ta façon de t'habiller à toi, tu la considères comme étant inférieure, puis la culture de l'autre, de l'étranger, ou du kafir, tu l'as élevée dans ton estime, hein, et dans ta façon de la regarder, au point où tu penses que c'est quand tu t'habilles comme ça que c'est là que tu es respecté. Et que c'est là que tu es respectable. Parce que t'as, en fait, en toi-même, tu préfères cette culture-là et tu l'as élevée. Tu crois qu'elle est supérieure à la tienne. Parce que tu as un problème dans ta conception, dans ta façon de voir le monde et de comprendre les choses. Donc, dans les deux cas, il y a un problème. Hein? Quelqu'un, il n'imite pas ce qu'il méprise. Mais il imite ce qu'il respecte. Tu comprends? Donc ça veut dire que si par exemple tu vois une culture que tu méprises, tu dis « Ah, ces gens-là c'est des gens inférieurs », tu ne vas jamais les imiter, tu ne vas jamais vouloir t'habiller comme eux et vivre comme eux. Mais lorsque tu vois des gens, ils parlent mal d'une culture mais ils font tout comme eux, comme c'est le cas dans certains pays musulmans, ils critiquent les koufars de l'Europe, mais ils font tout pour ressembler aux koufars de l'Europe, là ça veut dire que c'est un problème, hein, un problème au niveau du psychologique, parce que ça veut dire qu'ils ont une pauvre estime d'eux-mêmes et ils ont un complexe d'infériorité face à l'autre. Hein? Il y a une époque où les koufars voulaient imiter les musulmans. Ils voulaient s'habiller comme les musulmans. Ils voulaient parler comme les musulmans. Ils voulaient tous suivre l'exemple des musulmans. Pourquoi? Parce que les musulmans, déjà eux-mêmes, s'accrochaient à la religion d'Allah. Ils avaient une estime d'eux-mêmes. Ils étaient fiers et convaincus de ce qu'ils faisaient. Alors, non, c'est pas l'Andalus. C'est depuis l'exemple du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et donc, quand les musulmans se sont accrochés à leur islam, les sahabas sont partis partout dans le monde, les gens ont vu comment les sahabas vivaient, comment ils agissaient. Et ils ont voulu leur ressembler. Parce qu'ils ont vu que ça vient de la guidance des prophètes. Hein? L'Andalus, c'est venu plus tard après, et les musulmans étaient beaucoup plus faibles qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de l'Andalousie. Et beaucoup d'entre eux sont rentrés dans la philosophie, puis dans les choses de bid'a, où ils se sont... Et c'est là que la Ummah a commencé à chuter. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder l'Andalous comme un exemple ou un modèle. Ça, c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le meilleur exemple. Bon. Là, comme le cheikh, il dit... Ils imitent les koufars dans les choses les plus stupides, les plus futiles, les choses qui ne sont pas importantes. Hein? Et ils considèrent que c'est ça d'être évolué. Combien de fois des musulmans, tu vois, ils te voient avec leur kamis, ils disent « Tu devrais t'habiller de façon moderne ou comme tout le monde, tu vois, imiter tout le monde. » Pourquoi je devrais imiter tout le monde? Donc le cheikh, il dit « Wa min hadha al-ittiba' lahum anna al-muslimina lamma ra'aw al-nasara » يعني يعرون نساءهم ويخرجونهن إلى الأعمال الشاقة ومخالطة الرجال وجد في هذه الأمة من يفعل ذلك ويدعو إلى ذلك ويرغب فيه ويحبذه بل ينفذه في نسائه وبناته تقليدا لليهود والنصارى ظنا منه أن اليهود والنصارى ما وصلوا إلى هذه المنزلة في الصناعة والتقدم الصناعي إلا بسبب تعرية نسائهم وفساد أخلاقهم، وتجد التقليد لهم في كل الأمور التافهة كحلق اللحى وتوفير الشوارب وفي اللباس وبتتبع الموضات، وإن كانت مخالفة لقواعد اللباس في الشرع. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit, tu as vu par exemple que parmi les musulmans, il y en a qui ont vu les juifs et les chrétiens qui ont déshabillé et dénudé leurs femmes et qui les ont fait sortir pour faire des travaux très difficiles, hein, et pénibles pour la femme, et qui ont mélangé les femmes avec les hommes dans leur société. Alors tu vois dans cette Ummah, parmi les musulmans, des musulmans qui veulent imiter les koufars et les juifs et les chrétiens dans ces exemples-là, et qui veulent commencer à inviter les musulmans et à inciter les musulmans, et même parfois à forcer les musulmans à les imiter dans ces exemples-là. Et il fait même lui-même sortir ses femmes et ses filles dehors, et il les force à aller travailler ou à aller à l'école, mélanger avec des garçons et des filles, hein, et à être dans la mixité et à imiter les juifs et les chrétiens. Et il s'imagine dans sa tête que les juifs et les chrétiens n'ont pas atteint le degré d'industrialisation et de technologie moderne qu'ils ont atteint, excepté à cause du fait qu'ils ont dénudé leurs femmes et qu'ils ont corrompu leurs mœurs et qu'ils ont fait toutes sortes de choses qui sont en contradiction avec les bonnes mœurs. Ils pensent que c'est ça qui les a fait avancer dans la science et dans la technologie et dans l'industrialisation, alors que ça n'a aucun rapport. La perte des mœurs et la perte des bonnes manières et le fait de laisser les femmes marcher à moitié nues ou nues dans la rue, c'est pas ça qui les a fait avancer sur le plan de la civilisation ou de l'évolution technologique. Ça n'a aucun rapport, il n'y a pas un rapport entre les deux. Mais eux, dans leur esprit, étant donné qu'ils n'ont pas compris les choses, puis qu'ils sont très, ils voient les choses de façon très superficielle, ils s'imaginent qu'il y a un lien entre les deux. Donc le cheikh, il dit, tu vas trouver certains d'entre eux qui vont les imiter dans ce genre de choses futiles, hein, comme par exemple le rasage de la barbe. Hein? Les musulmans, ils pensent que les koufars, ils sont devenus évolués, puis qu'ils ont développé leur science et leur technologie parce que les hommes se rasent la barbe, alors que ça n'a aucun rapport. Yani. L'autre exemple aussi, le fait de laisser pousser la moustache et de raser la barbe et de porter les modes, les vêtements qui suivent les modes de ces koufars. Hein? Tu veux imiter les chanteurs. Comment les chanteurs des koufars et les vedettes des koufars s'habillent, mais là toi tu veux suivre les mêmes modes que eux. Les modes des designers de l'Europe, de la France ou de New York, comment ces modes-là, il y en a les grands couturiers, puis des trucs comme ça, les grands noms, hein, tu veux les imiter. Donc le cheikh il dit, وَإِنْ كَانَتْ مُخَالِفَةُ لِقَوَاعِدِ اللِّبَاسِ فِي الشَّرْعِ. Même si ces vêtements-là et ces modes-là sont en contradiction avec les règles du vêtement ou de l'habillement dans la révélation et dans la religion. Donc le cheikh il dit, وَيَظُنُّ بَعْدُ السُّذَّجِ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ مَا وَصَلُوا إِلَى مَا وَصَلُوا إِلَيْهِ مِنَ التَّقَدُّمِ الصِّنَاعِ بِهَذِهِ الْأُمُورِ الَّتِي يُقَلِّدُوهُمْ فِيهَا في حين إنهم إنما وصلوا إلى هذه بالجد والاجتهاد في طلبها وتعلمها، فالحاصل أن الله ورسوله حذر من اتباع اليهود والنصارى إلا أنه قضى سبحانه أن يكون في هذه الأمة من يخالف ذلك ويتبعهم وينظر وصف وانظروا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدقيق لهذا التقليد بقوله حذو القذة بالقذة عفانا الله من سننهم. Donc le cheikh il dit que certains naïfs parmi les musulmans s'imaginent que les juifs et les chrétiens ont uniquement atteint ce qu'ils ont réussi à obtenir dans l'avancement technologique qu'ils ont eu et dans les techniques et dans l'industrialisation. Ils pensent qu'ils ont obtenu ces choses-là uniquement en devenant corrompus sur le plan des mœurs et de la morale. Et donc certains de ces musulmans naïfs veulent les imiter dans ces exemples-là. Alors que la réalité, c'est que les Européens, les Américains, les autres koufars, s'ils se sont développés sur le plan de la technologie, et sur le plan de l'industrialisation et autres, c'est en travaillant avec effort, et en faisant des efforts, et en travaillant de façon sérieuse, hein, pour chercher les connaissances nécessaires, et pour apprendre ces choses-là, hein, et bien après, ils ont développé ces techniques-là, avec la science, avec l'effort, avec le travail sérieux, pas avec les futilités et les bêtises, les arts et les arts et les, comme on dit, les beaux-arts, comme ils disent, le fait de développer la chanson, la musique, le théâtre, l'écriture, la littérature, des choses de ce genre. C'est pas ça qui est à la source ou à l'origine de ce développement technologique que les koufars ont obtenu. Beaucoup d'entre ces courants littéraires et autres, hein, des différentes formes d'art que les koufars ont développées, surtout dans les derniers siècles, eh bien, c'est tout ce qui vient en opposition avec justement les règles et les mœurs classiques de qu'est-ce qu'ils avaient dans leur civilisation. Mais c'était pour détruire tout ce qui avait été fait auparavant. Et donc, même si en apparence à l'extérieur c'est ça ce qu'on voit de la civilisation occidentale, mais au fond et au cœur de ça, il y a des gens, hein, qui sont sérieux et qui travaillent sérieusement pour arriver à obtenir ces résultats-là. Mais les gens de l'extérieur, les différents peuples, eux, ils regardent ça de loin et ils ne comprennent pas la réalité de pourquoi ces choses-là se sont développées de cette façon-là. Et ils s'imaginent que c'est en les imitant dans ces futilités-là et dans leur système politique et économique et social et dans leur mode et dans leur... Hein, ils pensent qu'en les suivant dans ça, ils vont arriver à se développer dans le reste des choses. Et puis c'est pas ça du tout, ça n'a aucun rapport. Hein? Donc, si on n'est pas sérieux, on n'est pas sérieux. Hein? Peu importe si t'es pas sérieux, et si t'es en particulier si t'es pas sérieux envers Allah, envers ton Créateur, envers ta religion et envers tes responsabilités, eh bien, peu importe, qu'est-ce que tu vas faire. Tu vois, c'est comme par exemple, si t'es un être humain, comment je pourrais dire. Si comme par exemple t'es je sais pas moi, t'es un chauffeur de taxi, ok, t'es un chauffeur de taxi, tu t'habilles en médecin, est-ce que ça veut dire que t'es un médecin? Non, c'est pas parce que tu vas t'habiller comme un médecin que automatiquement t'as la connaissance nécessaire pour être un médecin. Donc il y en a parmi les musulmans, ils veulent imiter des gens ou des choses sans prendre les moyens pour réellement faire partie de qu'est-ce qui est nécessaire pour être capable de faire ce qu'il faut faire pour arriver à ton objectif ou à ton but. Si tu veux développer les choses dans ton pays ou dans ton pays d'origine, tu veux arriver à faire en sorte que la société s'améliore et que les gens aient une meilleure vie et que le système fonctionne mieux, c'est pas en t'habillant comme les Européens que tu vas devenir comme eux ou bien que tu vas avoir les choses positives qui existent dans leur pays ou dans leur système, mais c'est en premièrement en comprenant que déjà le bien, il est dans notre religion, il est déjà là. Le problème, c'est qu'on ne l'applique pas. Si on ne l'applique pas et après ça on se plaint que le bien il n'est pas présent, mais ça veut dire que le problème, en fait, il est en nous. On n'est pas sérieux. On respecte pas nos principes. Et si on respecte pas nos principes, c'est normal que on est dans l'état dans lequel on est. Donc, le cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala et son messager nous a avertis de suivre les juifs et les chrétiens, c'est-à-dire, et il dit que, il y a il a décrété, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que dans cette umma, il y allait en avoir parmi les musulmans qui vont les suivre. Et il dit, regardez la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une description très précise et très minutieuse de la façon dont les musulmans vont les imiter. À un point tel qu'il a dit, hazwal quzzati bil quzza. C'est pour dire, yani, vous allez les suivre exactement pareil, comme eux ils font, vous allez le faire. Et donc, qu'Allah nous préserve de leurs exemples. Après, le cheikh, il mentionne un autre hadith. Il dit, وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ لَا تَقُمُ السَّاعَةَ حَتَّى تَأْخُذْ أُمَّتِي مَأْخَذَ الْقُرُونَ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَفَارِسْ وَالرُّومِ قَالَ وَمَنِ النَّاسِ إِلَّا أُولَئِكَ Donc, Al-Bukhari, il rapporte dans son Sahih une autre version de ce hadith, selon Abi Huraira. Il dit que l'heure du jugement ne viendra pas tant que ma umma ne prendra pas des siècles qui ont précédé, pas à pas. Hein? Et il a dit, l'expression en arabe c'est Shibran bi Shibrin, Zira'an bi Zira'in. Shibran bi Shibrin, Shibr c'est la longueur du bout des doigts jusqu'au poignet. Ça c'est Shibr. Et Al-Zira, c'est du bout des doigts jusqu'au coude. Ok? Donc c'est main à main et bras à bras. En voulant dire, à un yani, vous allez les suivre à l'exemple, yani, à l'exemple près. Hein, et au pas, vous allez les suivre. Il a dit, après les Sahaba ont dit, ô messager d'Allah, comme la Perse et Rome, comme les Perses et les Romains, hein, est-ce que c'est de ces peuples-là qui nous ont précédés que tu parles? Et il a dit, et qui d'autre excepté eux? Et qui d'autre excepté eux? Donc, ça c'est une autre version du hadith. Dans le premier hadith, c'était les Juifs et les Chrétiens, maintenant c'est les Perses et les Romains. Okay? Et le Cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, ça c'est le passage numéro 36. Il a dit, « Qawluhu » مأخذ القرون أي أن هذه الأمة تسير بسيرة الأمم التي قبلها وقوله شبرا بشبر المراد بيان شدة اتباعهم والمبالغة في التقليد في تقليدهم. Donc il a dit مأخذ القرون, c'est pour dire que cette umma va suivre, hein, la même voie, le même chemin que les nations qui l'ont précédé. Et shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, c'est pour montrer l'intensité et la force avec laquelle on va vouloir les suivre. Et à quel point on va exagérer dans le fait de vouloir les suivre. وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ وَلَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍ لَدَخَلْتُمُوهُ يعني رغم عسر مدخله ومخرجه إلا أنكم من شدة اتباعهم أو من شدة اتباعكم لهم حتى في أتفه الأشياء تتبعونهم ولو حتى لو ساروا بكم إلى أعلى الطرق. Donc, comme dans le hadith précédent, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, même s'il rentrait dans le trou d'un lézard, vous allez rentrer dedans avec eux. Eh bien, il dit, c'est pour dire que malgré la difficulté de l'entrée et de la sortie, sauf que vous voulez tellement les suivre d'une façon exagérée et grave, que même dans les choses les plus futiles, vous allez vouloir les suivre. Et que vous allez les suivre même si ils vous amènent dans les voies les plus difficiles pour vous. Allah al-musta'an. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَارِسُ وَالرُّومِ وفارس هم الشعب المعروف بالفرس وهم في المشرق والروم الشعب المعروف في المغرب وإنما ذكر فارس والروم لأنهم أكبر ممالك الأرض حينئذ وأكثرهم رعية وأوسعهم بلادا. Donc ils ont dit, ô messager d'Allah, est-ce que tu parles des Perses et des Romains? Les Perses, c'est le peuple qui est connu, hein, aujourd'hui c'est l'Iran, mais dans le passé, c'était pas l'Iran seulement, c'était l'Empire Perse, et ça englobait une région beaucoup plus grande que qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran, hein. C'est une partie de la Perse seulement, l'Iran, c'est une partie de l'Empire Perse. Et l'Empire Romain, c'était beaucoup plus que l'Italie aujourd'hui. La Rome aujourd'hui c'est une ville en Italie, mais Rome c'était presque toute l'Europe et même le nord de l'Afrique, hein, qui faisait partie de Rome, même l'Égypte. Donc c'est pour dire que c'était les deux grands empires l'empire de l'Est et l'empire de l'Ouest. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ces exemples-là à l'époque, parce que c'était les plus grands pays, les plus grands empires de cette époque-là. Et donc, ils avaient le plus grand nombre d'habitants et le plus grand nombre de territoires, le plus grand territoire. Et donc, c'est pour ça qu'il a mentionné ces deux peuples-là. Aujourd'hui, les noms de ces territoires-là ne sont plus les mêmes. Il y a beaucoup de ces noms-là qui ont changé, mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a des grandes pouvoirs, des grandes puissances, des pays qui sont plus forts sur la terre en ce moment. Puis, c'est ces exemples-là que les musulmans aujourd'hui veulent suivre. Hein? L'Europe, l'Amérique, hein? L'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest. En tout cas, l'URSS et tous ces grandes puissances, ça c'est les pays que les musulmans suivent parce qu'ils sont influencés par ces puissances-là. Il dit wa fi hadha al-hadith 'ulima min dala'il nubuwwatihi sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi hadha al-hadith 'alam min dilalati aw 'ilm min dala'il nubuwwatihi. 'Alam min dala'il nubuwwatihi. نعم فقد حدث مثل ما أخبر وهذا خبر معناه التحذير لهذه الأمة من التشبه بالأمم الماضية حتى لا يصيبها ما أصابهم من العذاب فلا بد لهذه الأمة أن تكون لها شخصيتها المستقلة. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans ce hadith, il y a un des signes de la prophétie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, cet exemple-là, dans ce hadith, c'est comme si ça vient confirmer la véracité de la prophétie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, qu'est-ce qu'il nous avait dit qui allait se produire dans l'avenir? Ça s'est produit tel qu'il l'avait dit. C'est-à-dire qu'il nous avait averti et annoncé que des gens allaient imiter les juifs et les chrétiens, et dans la réalité, aujourd'hui, on voit que c'est ça ce qui s'est passé. Les musulmans ont imité les juifs et les chrétiens, les perses et les romains. Hein? Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait mis en garde contre le fait de suivre les peuples qui nous ont précédés pour qu'on ne soit pas frappé par les mêmes malheurs et les mêmes châtiments que ceux-là ont reçu, et les châtiments que eux, par lesquels eux ont été frappés aussi. Donc le cheikh, il dit, il faut absolument donc que cette umma ait sa propre personnalité indépendante et particulière. Il ne faut pas qu'elle imite les autres. Et ça, c'est une chose que malheureusement, beaucoup de musulmans ne comprennent pas aujourd'hui. Hein? Surtout qu'il y en a beaucoup de musulmans maintenant qui ont immigré, même dans les pays des kuffars, qui vivent en Europe, qui vivent en Amérique, qui vivent dans des peuples, chez des peuples mécréants. Et donc, à cause de ça, ils adoptent leur personnalité, leur mentalité, leur façon de vivre. Et ça, c'est encore plus dangereux pour les musulmans qui vivent ici, en Occident. Hein? Parce qu'on est en plein milieu d'eux, et c'est très facile de se faire assimiler. Et c'est pour ça que c'est important d'avertir les musulmans de ne pas imiter justement les juifs et les chrétiens, encore plus ici, pour pas qu'on se fasse complètement assimiler et qu'on devienne complètement comme des koufars. On commence absolument à être comme eux. Et ça, c'est surtout dangereux pour les jeunes, et pour les jeunes générations, et pour les enfants, et pour les femmes, hein, qui viennent, des familles qui viennent s'installer dans les pays de kufr, et qui commencent à vivre ici, et qui commence à adopter le mode de vie des koufars, et qui commence à perdre petit à petit sa religion. Hein? Donc c'est ça le danger. Et puis tu vois, par exemple, certains musulmans, ils savent pas que c'est interdit pour eux de venir vivre ici, en Amérique ou en Europe. Ils pensent que c'est halal. Ils pensent que c'est permis de venir. Donc ils quittent les pays musulmans parce qu'ils disent « Ah, la difficulté de vivre, on n'a pas de travail, on n'a pas de ci, on n'a pas de ça. » Et puis ils s'en viennent s'installer dans les pays de kufr. Mais le problème, c'est que pour une petite part de la dunya, ils perdent leur dunya et leur akhira. Hein? Maintenant, tu vois des jeunes, hein, les, même il y a des shayatin al-ins parmi les musulmans qui en, sont en train de dire aux musulmans, oui, on est des citoyens, on est des Canadiens. Tu l'entends? J'ai entendu des musulmans dire ça. Oui, on est Canadiens, on est Québécois. Hein, surtout quand il y a eu les affaires de la charte, là. Et en France, la même chose. Tu vois des musulmans, ils disent, on est Français avant d'être musulmans. Ou bien on est Québécois avant d'être musulmans. On est Canadiens avant d'être musulmans. Hein? Ils disent, c'est mon pays autant que les autres qui sont ici depuis 300 ans. Donc ça, c'est ridicule. Parce que la culture, la religion, les lois et le système de ce pays n'a rien à voir avec ta religion. Donc comment tu peux penser, toi, que tu es un citoyen et de la même façon que les juifs et les chrétiens qui vivent ici. Tu n'es pas juif, tu n'es pas chrétien, tu es musulman. Et donc tu ne seras jamais un français, un anglais, un canadien, un québécois ou peu importe, ou un américain. Non, parce que toi t'as une foi, t'as une aqida, t'as des principes, t'as des valeurs qui sont basées sur le Coran et sur la Sunna, qui sont en opposition, hein, avec les systèmes de ces koufars-là, hein, et leur loi, leur mode, leur façon de vivre, hein, et yani, ça fait en sorte que tu ne seras jamais capable de rester dans cette société-là comme il faut, en tant que musulman pratiquant ta religion, excepté que tu vas avoir beaucoup de difficultés à le faire. Et en plus, c'est ça. Allah, il nous a interdit dans le Coran de rester chez les koufars si on a la capacité de s'en aller et que on a de la difficulté à pratiquer notre religion, on est obligé de s'en aller. Et de quitter un pays musulman pour venir dans les pays de kufr, c'est un grand péché. Un grand péché. Parmi les kabair, hein, si tu viens surtout pour, si tu viens pas pour juste une nécessité, si tu viens pour une nécessité, ça peut être, c'est permis, hein, avec les conditions. Mais si tu viens juste parce que tu veux vivre ici et tu veux t'installer ici, devenir un citoyen de ce pays et t'intégrer dans leur société et commencer à vivre comme eux, et avec ta femme et tes enfants en plus, et ça c'est grave. Et puis surtout quand tu vois des musulmans qui viennent ici, après commencent à critiquer les pays musulmans, et ça c'est de l'hypocrisie, hein. Allah musta'an. Ok, donc le prochain hadith, qu'est-ce que ça dit? Le cheikh il dit wa rawa al-Bukhari. Donc on l'a lu ce hadith là. Maintenant la suite de l'explication. Le cheikh il dit wa fi hadha al-hadith. Donc dans ce hadith il y a un signe de la prophétie que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle s'est exécutée, elle s'est produite telle qu'il avait averti qu'il allait avoir ça de l'imitation des koufars. Et bien c'est arrivé maintenant. Et le prophète nous avait averti à ce sujet-là de ne pas imiter les peuples qui nous ont précédés pour pas qu'on soit frappé par les mêmes châtiments que eux. Et donc, il faut que cette umma elle ait sa propre personnalité. Le cheikh l'islam il dit ensuite wa akhbara annahu sayakunu fi ummatihi mudahatun lil yahudi wal nasara wa hum ahlul kitab wa mudahatun lil farisi wal rum wa hum al a'ajim. Donc Ibn Taymiyyah il dit dans le passage numéro 37 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait averti, nous avait annoncé qu'il y allait y avoir de l'imitation des juifs et des chrétiens dans cette umma. Et ce sont les juifs et les chrétiens, hein, les gens du livre, ce qu'on appelle les gens du livre. Et qu'il y allait avoir de l'imitation des Perses et des Romains. Et ce sont les étrangers, al-a'ajim, hein, les étrangers. Donc le cheikh il dit wa qawluhu mudahatan lil yahoud يعني أن التشبه بالأمم الماضية لا تقتصر على التشبه باليهود والنصارى فحسب مع أنهم أهل كتاب بل وللأعاجم كذلك الذين لا كتاب لهم إعجابا بما عليه الأجانب من النقص وزهدا بما نحن عليه من الحق والكمال. Donc le cheikh il explique la parole de Ibn Taymiyyah, cheikh Al-Fawzan, il dit en imitation des juifs et des chrétiens, et à partir de cette partie-là jusqu'à la fin, de ce qu'il a dit dans cette phrase, il dit, c'est-à-dire que l'imitation des peuples qui ont précédé ne se limite pas uniquement à imiter les juifs et les chrétiens seulement, mais malgré que ce sont des gens du livre, mais également à imiter les étrangers, c'est-à-dire les Perses et les Romains, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu de livre. Hein? Les Juifs, les Perses et les Romains, ce n'est pas des peuples qui ont reçu des livres, des révélations. Donc ils ne sont pas des Juifs et des chrétiens. Et ça nous indique quelque chose d'important aussi. Ça, c'est parce que les deux hadiths, en fait, ils se complètent. Il y a un hadith qui mentionne les Juifs et les chrétiens, qui sont les gens du livre. Et parmi les koufars, il y en a comme les Perses et les Romains, qui n'ont pas reçu de livre. Mais c'est interdit de les imiter eux aussi, encore plus même. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas reçu de livre. Si ceux qui ont reçu un livre parmi eux sont égarés, imagine l'égarement de ceux d'entre eux qui n'ont pas reçu de livre. Hein? Et donc ça comprend aujourd'hui tous les autres, parmi les koufars qui sont en Europe ou en Occident ou ailleurs, qui n'ont pas reçu de livre ou qui ne croient plus à un livre. Comme par exemple les laïcs et les autres, hein, les athées, qui rejettent complètement la révélation et qui parfois même retournent à des anciennes croyances païennes qui étaient avant l'ère chrétienne en Europe, chez les Romains et ailleurs, hein, chez les peuples de l'Europe. Donc tous ces peuples-là, c'est interdit de les imiter dans ces choses-là. Donc il dit, il y en a parmi les musulmans qui vont les imiter, malheureusement, parce qu'ils sont éblouis. Ils sont éblouis par les koufars. Comme si quand ils voient les koufars, comment ils vivent et les choses qu'ils font, ils sont éblouis par ça. Il y en a des musulmans, ils viennent des pays vraiment sous-développés. Okay. Ils viennent des pays sous-développés sur le plan technologique. Et quand ils viennent dans les pays de Kouf, en Europe ou en Amérique, ils voient l'eau courante, ils voient l'électricité, ils voient les systèmes des rues, comment les immeubles sont construits, tout ça. Et là, ils sont éblouis. Waouh, ah, c'est beau, ah, c'est propre, ah, c'est comme ci et comme ça. Donc, ils deviennent aveuglés par ça. Ils ne voient pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ils ne réalisent pas que même ça, on est capable nous aussi d'avoir ça et d'avoir mieux. Parce que qu'est-ce que ça prend? Ça prend des ingénieurs, ça prend des moyens, de l'argent, ça prend du ciment, du béton, des matériaux, et puis de la volonté, et puis on le fait. Hein? Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a rien de compliqué. Même que beaucoup des ingénieurs qui vivent ici dans les pays de Kouf, ce sont des musulmans qui ont étudié ces sciences-là, puis qui sont en train de bâtir les pays de Kouf au lieu d'aider à développer les pays musulmans. Donc c'est quoi le problème, hein? Vous vous éblouissez de quoi pour rien, hein? Vous éblouissez des koufars, hein? C'est ridicule. Donc ils s'éloignent de ce que nous on possède comme bien et comme vérité et comme perfection, et ils s'éblouissent de ce que les koufars ont comme chose dégradante et dépravée et futile et temporaire aussi, parce que toutes ces choses là ça tient sur un fil, comme on dit. Après, le cheikh il dit, cheikh Ibn Taymiyyah il continue, il dit, وقد كان صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit d'imiter cela et cela, c'est-à-dire d'imiter les juifs et les chrétiens, les gens du livre, et d'imiter les romains et les perses, c'est-à-dire les étrangers. Et ça, c'était pas une information qu'il a dit au sujet de toute la Ummah. C'est-à-dire que c'est pas toute la Ummah islamique au complet qui va imiter ces gens-là. C'est une partie de la Ummah seulement. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Dans le point numéro 38, il dit, المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن التشبه بأهل الكتاب وبالأعاجم لما في التشبه بهم من النقص ولأن التشبه بهم في الظاهر يورث التشبيه بهم في الباطن ولهذا سيأتي في قول الشيخ أن حديث من تشبه بقوم فهو منهم يقتضي بظاهره تحريم التشبه وإن كان يقتضي في لفظة كفر المتشبه لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، ومعنى منهم أي أنه كفر بفعله، وهذا فيه تفصيل كما يأتي. فالتشبه قد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد يكون كفرا، فإذا تشبهنا بهم في دعاء الأموات والغلو في الصالحين وبناء المشاهد على القبور فهذا أمر كفر، وقد يكون معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، أو قد يكون محرما، وهذا على حسب الفعل ونتاجه. Donc le cheikh il explique que qu'est-ce qu'on veut dire ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il interdisait de ressembler aux gens du livre et de ressembler aux étrangers. Hein? Et pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils ont en eux-mêmes? C'est quelque chose qui est déficient et incomplet et imparfait. Donc si tu les imites là-dedans, tu les imites dans qu'est-ce qui est dénigrant, dans qu'est-ce qui est qui te diminue. Et en même temps, le cheikh il dit que le fait de les ressembler dans l'apparence extérieure, ça t'amène à vouloir leur ressembler également intérieurement. Ok? Parce que quand tu vois que quelqu'un essaie de ressembler à quelqu'un d'autre extérieurement, dans son apparence extérieure, soit dans sa façon de s'habiller ou dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre, c'est parce que intérieurement il y a quelque chose en dedans qui l'attire. Il y a quelque chose en dedans qui l'aime. Et il veut essayer de les imiter parce qu'il est attiré par ça. Ok? Si tu vois, par exemple, des jeunes qui veulent imiter un chanteur ou une vedette ou un sportif ou quelque chose comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose dans cette personne-là qu'ils admirent. Hein? Tu vas imiter celui que tu admires. Tu ne vas pas imiter celui que tu détestes. Tu ne vas pas imiter ce que tu méprises. Hein? Et donc, si tu vas l'imiter extérieurement, bien, petit à petit, tôt ou tard, tu vas commencer à l'imiter également intérieurement. Hein? Et croire en ce qu'il croit et être comme il est, et ainsi de suite. Donc, le cheikh, il dit, et l'interdiction, ici, de ressembler au kuffar, en apparence, la parole, le cheikh il va mentionner le hadith plus tard que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui imite un peuple il est un des leurs. Et il dit ça implique l'interdiction de ressembler au kuffar en apparence. Il dit même si également ça peut impliquer aussi la mécréance de celui qui essaie de ressembler au kuffar. Ça peut aussi impliquer la mécréance de celui qui essaie de ressembler au kuffar. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui imite un peuple, il est un des leurs. Donc si tu dis qu'il est un des leurs, est-ce que ça veut dire qu'il est kafir? Hein? Est-ce que ça veut dire qu'il est kafir? Le cheikh il explique. Il dit si la signification de qu'il est un des leurs, c'est-à-dire qu'il a mécru, hein, par l'action. Il a mécru par cette action-là. Mais il dit, mais il y a des détails à ce sujet-là, et ça, on va y revenir. Parce que le fait d'imiter les kuffars, ça peut être makruh, ça peut être détestable, ça peut être haram, ça peut être interdit, si tu les imites, selon la chose, selon l'action dans laquelle tu les imites, ou la chose dans laquelle tu les imites. Et ça peut aussi être kufr. Il donne des exemples. Il dit, si tu les imites, par exemple, dans le fait de prier aux morts et d'invoquer les morts, ou d'exagérer à propos des hommes pieux, de construire des mausolées par-dessus les tombes et des mosquées sur les tombes, tu construis des mosquées sur les tombes, ça, tout ça, ça rentre dans le coffre. Et il dit, ça se peut également que ce soit un péché ou un kaba'ir, il y a des grands péchés. Ou ça se peut que ce soit juste quelque chose de haram normal, que ce n'est pas un grand péché, mais que ce soit haram. Selon l'action et selon la conclusion ou le résultat de cette action-là. Il dit wa qawluhu wa laysa hadha ikhbaran an jami' al-umma bal innama yaf'alu hadha ba'd hadhihi al-umma aw kathir minha wa la tazalu ta'ifatun minhum 'ala al-haqq la tatashabbah bil-yahud والنصارى والأعاجم كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. Donc le cheikh il dit que cette parole du prophète صلى الله عليه وسلم quand il a dit que vous allez suivre les juifs et les chrétiens et que vous allez suivre les imiter, ça c'est pas pour toute la umma au complet. Il dit que c'est possible que ce soit une partie de la umma ou la plus grande partie de la umma qui agisse comme ça. Mais il y aura toujours un groupe parmi les musulmans, parmi la umma, qui va rester sur la vérité et qui ne va pas imiter les juifs et les chrétiens et les étrangers. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith, qu'il y aura toujours un groupe de ma umma qui sera victorieux sur la vérité. Donc il y a un groupe de la umma, et c'est les gens qui s'accrochent à la voix des salafs et au Coran et à la sunna, eux, ils ne vont pas imiter les juifs et les chrétiens, même si les autres les imitent. Il dit bal tawatara, bal qad tawatara anhu annahu qal la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqq zahiratan 'ala al-haqq hatta taqum as-sa'a wa akhbara sallallahu alayhi wa sallam أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة ولا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. Donc le cheikh il mentionne trois hadiths ici et il dit pour prouver que c'est pas toute la umma qui va être dans l'imitation des kuffars, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y aura toujours un groupe de ma umma qui va s'accrocher, qui va être victorieux sur la vérité jusqu'à l'heure du jugement dernier. Donc à chaque époque, il y a toujours un groupe qui s'accroche à la sunna et qui reste véridique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la umma tout entière ne va jamais s'unir, la umma ne va jamais toute s'unir au complet sur l'égarement. Donc c'est pas possible que la umma s'unisse sur quelque chose tout entière si c'est un égarement. Il y aura toujours une partie de la umma qui va refuser de cet égarement-là. Et le point numéro 3, ou le hadith numéro 3, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala va toujours continuer à planter dans cette religion des gens qu'il va utiliser dans son obéissance. Qu'il va employer dans son obéissance. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique ces trois hadiths, qui est le passage 39. Il dit, يعني, لا تفهم أيها السامع قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم وقوله لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها أن الأمة كلها ستعمل هذا العمل وتقلد اليهود والنصارى لا إنما هم بعض هذه الأمة أو كثير منهم ولكن لا تزال باقية على الحق لا تتحول عنه ولا تتشبه باليهود ولا النصارى ولا الأعاجم وهؤلاء هم الذين أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. Donc le cheikh il dit, c'est-à-dire, ô toi qui écoutes cette parole maintenant, de la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, quand il a dit, vous allez suivre les exemples de ceux qui vous ont précédés, ou quand il a dit « Ma umma va prendre des nations qui ont précédé », ne comprend pas, ou n'est pas la compréhension que c'est toute la umma qui va faire ça. Pense pas que ce sera toute la umma qui va faire ça, et qui va suivre les juifs et les chrétiens. Non, c'est pas ça la vraie compréhension de ce hadith. Ça veut seulement dire que certains de cette umma, ou beaucoup d'entre cette umma, vont les suivre. Mais il y aura toujours un groupe qui va rester sur la vérité et qui ne changera pas et qui n'imitera pas les juifs et les chrétiens et les étrangers, hein, les peuples autres, les autres peuples, mouchriquins et kuffars. Et ceux-là ceux qui vont rester sur cette vérité, qui ne vont pas dévier, qui ne vont pas imiter les kuffars, ce sont ceux au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informés et qu'il a dit à leur sujet qu'il y aura toujours un groupe de ma umma qui va combattre sur la vérité et qui vont être victorieux jusqu'au jour de la résurrection. Et donc il dit wa anna al-umma la tajma' ala dalalah wa anna Allah yaghrasu li hadha ad-din gharsan yani يثبتون عليه. وهذه الأحاديث في هذه الأحاديث أمران. الأمر الأول التحذير من التشبه باليهود والنصارى والأعاجم. الأمر الثاني أن هذه الأمة بقية, أن في هذه الأمة بقية لا تسلك هذا المسلك, جعلنا الله من هذه الطائفة الثابتة على الحق. Donc le cheikh il dit, et que yani non seulement il y aura un groupe victorieux, mais que cette umma ne va pas s'unir sur l'égarement, et que Allah va continuellement planter dans cette religion yani des gens qui vont rester fermement accrochés à la vérité dans cette umma et qui vont rester fermes. Et donc on peut tirer de ces hadiths là deux choses, des hadiths qu'on a lus, on peut tirer deux choses. La première chose, la mise en garde contre le fait d'imiter les juifs et les chrétiens et les étrangers. Et la deuxième chose, que cette umma, il y aura parmi eux un groupe qui va rester et qui va suivre cette voie, la voie de la vérité, que Allah nous place parmi ce groupe là qui est ferme sur la vérité. Amin. Le cheikh il dit wal maqsoud anna hadhihi al umma wa in kana fiha man yuqallid al umam wa yattabi'uha fi tariqiha إلا أنه ولله الحمد جاءت البشرى أنه لا تزال طائفة ثابتة على الحق حتى تقوم الساعة, وأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. وقوله أن الله لا يزال يغرس يعني يغرس في هذا الدين, أي أن الله يصنع في هذه الأمة على عينه ناشئة من المؤمنين يستعملهم في طاعته ولخدمة هذا الدين. Donc il dit qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que cette umma, c'est-à-dire cette umma, même si dedans il y a des gens qui vont imiter les autres peuples et qui vont suivre leur voie, excepté que par la grâce d'Allah on a eu l'annonce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yani qu'il y aura toujours un groupe qui va rester ferme sur la vérité jusqu'à l'heure du jugement dernier, et que cette umma ne va pas s'unir sur l'égarement. Et la parole yani du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah va continuer à planter dans cette umma yani des gens qu'il va utiliser dans son obéissance, c'est-à-dire que Allah va faire en sorte que dans cette umma, il y aura toujours des gens qui vont grandir ou qui vont yani, naître ou qui vont grandir parmi les croyants, et Allah va toujours les utiliser pour servir cette religion-là, hein, et pour son obéissance. نعم فعلم بخبر الصدق أن لا بد أن يكون في أمته قوم متمسكين بهديه الذي هو دين الإسلام محضا, وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب دين اليهود أو شعبة من شعب النصارى. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit, on a su donc par l'annonce véridique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faut absolument qu'il va y avoir dans cette umma des gens qui vont s'accrocher à la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la religion de l'islam pur, et qu'il y aura des gens qui vont dévier vers une branche parmi les branches des juifs et une branche parmi les branches des chrétiens. Ça c'est le passage 40. Le cheikh Al-Fawzan il explique ce passage là et il dit وهذا مقتضى خبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إنه مع كثرة الشر فإن الخير موجود في هذه الأمة، وأن هذه الأمة لا تضل كلها وإنما يضل بعضها، ها، ويبقى البعض على الحق، وهذه بشارة أو بشارة منه صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه يهرس لهذه الأمة غرسا يستعملهم في طاعته من ناشئة المسلمين الذين ينشأون على الخير ويسلكون طريق الحق من غير غلو ومن غير جفاء، يأخذون من منهج السلف الصالح بحكمة وروية واعتدال لا إفراط ولا تفريط. Donc le cheikh il dit, le cheikh Al-Fawzan il explique ce passage 40, il dit qu'est-ce que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam implique, c'est que yani on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de toute façon quand il parle pas selon sa passion, c'est une révélation qui lui est révélée, hein? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il nous dit, ça implique que malgré la quantité du mal qui va exister parmi les musulmans, le bien va toujours rester. Il y aura toujours du bien dans cette umma. Et que cette umma, elle ne va pas se dévier ou s'égarer en entier. Même s'il y en a qui vont s'égarer, mais ils ne vont pas s'égarer au complet. Il y aura toujours une partie qui va s'égarer et une partie qui va rester sur la vérité parmi les musulmans. Et ça, c'est une annonce heureuse de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah, et également que Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte qu'il y aura toujours des gens qui vont naître dans l'islam sous l'obéissance d'Allah parmi les musulmans et qui vont rester dans le bien et sur le bien et qui vont suivre la voie de la vérité sans exagération et sans laxisme, hein? Ils vont éviter les extrêmes et ils vont prendre la méthodologie des salaf al-salih avec sagesse et avec modération et avec justice sans tomber dans l'excès de l'exagération ni du laxisme. Cheikh Ibn Taymiyyah il dit وَإِنْ كَانَ الرَّجُلْ لَا يَكْفُرْ بِهَذَا الْإِنْحِرَافِ بَلْ قَدْ لَا يَفْسُقْ أَيْضًا بَلْ قَدْ يَكُونُ الْإِنْحِرَافِ كُفْرًا وَقَدْ يَكُونُ فِسْقًا وَقَدْ يَكُونُ سَيِّئَةً وَقَدْ يَكُونُ خَطَأً بَلْ Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit même si cet homme ne va pas nécessairement devenir mécréant par cette déviation-là, le fait qu'il suit les juifs et les chrétiens, c'est pas nécessaire qu'il va devenir automatiquement kafir. C'est possible qu'il devienne kafir, mais c'est possible aussi qu'il devienne... C'est possible qu'il ne devienne pas kafir. Il dit, c'est possible qu'il ne soit pas non plus un fisc, que ce ne soit pas un péché. C'est possible non plus que... C'est possible que ce soit kouf, et c'est possible que ce soit un péché, c'est possible que ce soit quelque chose de mauvais, c'est possible que ce soit aussi une erreur, et c'est possible que ce ne soit pas un péché aussi. Donc le cheikh, il donne toutes les possibilités, tous les différents cas. Et là, il va expliquer ça en détail, puis on va s'arrêter après à ce point-là, inshallah, le point suivant, où il donne toutes les différentes catégories des cas de tashabbuh. Il dit, le passage 41, « أي أن هذا التشبه باليهود والنصارى ليس معناه أن من تشبه بهم يكفر ويخرج من الدين بل معناه أنه يكون على شعبة من النفاق أو الكفر أو الفسق أو المعصية فالتشبه بالكفار ليس على حد سواء في الحكم فمنه ما هو كفر ومنه ما هو فسق ومنه ما هو معصية بحسب الشيء الذي حصل من بحسب الشيء الذي حصل التشبه به من أفعالهم وقد لا يصل إلى حد الفسق لكن على العموم لا يجوز التشبه بالكفار ولا يتساهل فيه لعموم النهي عنه. Donc le cheikh Al-Fawzan il explique que l'imitation des juifs et des chrétiens, ça ne veut pas dire que celui qui les imite, il devient automatiquement kafir et qu'il sort de la religion. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum » Celui qui imite un peuple, il est un des leurs. Comme dans le verset dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Est-ce que ça veut dire que celui qui les prend pour alliés devient automatiquement kafir et qu'il sort de la religion? Non. Parce qu'il y a des formes de tawalli hein, qui sont kufr et il y a des formes de tawalli qui sont un péché et qui ne font pas sortir de l'islam nécessairement. Donc la même chose pour le tashabbuh. Il y a des formes de tashabbuh qui peuvent faire sortir quelqu'un de l'islam, le faire devenir kafir, mais il y a des formes de tashabbuh qui ne font pas nécessairement sortir de la religion. Hein? Donc le cheikh il dit, ça se peut que ça, la signification soit que la personne, hein, que la personne, elle a en elle une branche parmi les branches de l'hypocrisie, mais elle n'est pas complètement hypocrite. Ou bien qu'elle a une branche parmi les branches du kufr, ou une branche parmi les branches du fisq, ou une branche parmi les branches du péché. Donc le fait d'imiter les kuffars, c'est pas tout au même degré dans le verdict. Parmi les verdicts, il y en a qui, parmi les différents verdicts, il y en a qui est kufre. Il y en a une forme d'imitation des kuffars qui est kufre, qui fait sortir de l'islam. Sinon, il y en a d'autres qui est pas kufre, mais qui est fisq. Hein, c'est une perversité. Il y en a d'autres que c'est un péché. Donc, selon la chose dans laquelle tu les imites, et selon l'action, ou la parole, ou ainsi de suite, et ça se peut que ça n'atteigne pas le degré de fisq. Mais, de façon générale, ce n'est pas permis de les imiter. Même si ce n'est pas kufr, même si ce n'est pas shirk, même si ce n'est pas fisq, ça ne veut pas dire que tu as le droit de les imiter. Tu ne dois pas les imiter quand même. Même si tu dis, ah, mais c'est juste haram, ce n'est pas grave. Non, c'est grave. Même si c'est juste haram, tu dis, hein, c'est un péché quand même, c'est grave. Et le cheikh, il dit, c'est possible que donc, ce soit fisq ou que ce soit pas fisq, mais de façon générale il n'est pas permis de ressembler au kuffar, et on ne doit pas prendre ça à la légère à cause du sens général de l'interdiction. Il dit bal, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit ici bal qad yakunu al-inhiraf kufran, c'est possible que la déviation soit un kufr, c'est-à-dire que ça soit une forme de mécréance. Et là, Cheikh Al-Fawzan, il explique. Et c'est ça qu'on va lire là, maintenant, les six catégories de tashabbuh. Et on va s'arrêter après à ça. Ça, c'est très important de les comprendre. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit, فَالتَّشَبُّهْ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَعَ. Ça, c'est pour commencer, il dit, le tashabbuh, il est en quatre sortes. Le fait d'imiter. Tashabbuh, c'est quoi? C'est ça. La ressemblance aux kuffars, et aux juifs, et aux chrétiens, ou aux étrangers. Elle est de quatre sortes. Imma an yakuna kufran, soit que c'est kufr. Imma an yakuna fisqan, soit que ce soit fisq. Al-fisq, c'est quoi? C'est un péché, mais un péché que tu exposes, que tu montres. C'est-à-dire, tu fais un péché, mais tu le fais. Yani, comme si tu le considères comme si c'est pas. Comme si tu le fais devant. Ça ne te dérange pas que les gens te voient que tu fais ce péché-là. C'est ça du fisq. Ok? Imma an yakuna ma'siyatan. Donc, soit que ça va être une désobéissance à Allah, un péché. Ou imma an yakuna khata. Soit que ça va être une faute, une erreur. Hein? Tu les imites, mais c'est une erreur. Tu ne l'as pas fait exprès. Ok. Donc, il y a quatre sortes dans le tashabbuh, il y a quatre sortes. Le kufr, le fisq, le masiya et le khata. Et il dit, fala nahlu fil hukmi ala al mutashabbihin bi takfirihim. Wa la natasahalu fi taqlidihim fi kulli shay. Donc, il dit, il ne faut pas exagérer dans le jugement qu'on fait au sujet des gens qui imitent les kuffars en faisant leur takfir. Ça, c'est dangereux. Donc, si tu vois quelqu'un, n'importe qui, par exemple, il commence à imiter les kuffars dans quelque chose, dans une chose quelconque, qui n'est pas kuffar, puis toi, tu les déclares kuffars parce qu'ils imitent les kuffars à cause de ça. Ça, c'est dangereux. Et il dit, voilà notre sahel. Et en même temps, on ne doit pas non plus prendre à la légère, hein, et prendre l'affaire comme si ce n'était pas grave. d'imiter les kuffars dans toutes choses. C'est dangereux. Donc il dit bal alayna an nakuna munsifina fi ahkamina wa dhalika ala naw'i muharram wa makruh wa al muharram anwa. Donc il dit il faut plutôt qu'on soit juste, hein, et tempéré dans la façon dont on établit les jugements et les verdicts. Et ça, c'est de deux catégories. C'est-à-dire que les jugements par rapport, le verdict au sujet de ceux qui émettent les kuffars, il est de deux sortes. Il y a qu'est-ce qui est muharram et il y a qu'est-ce qui est makruh. Dans le tashabbuh, il y a qu'est-ce qui est haram et il y a qu'est-ce qui est makruh. Qu'est-ce qui est interdit et qu'est-ce qui est détestable. Et qu'est-ce qui est interdit, il a différents degrés ou différentes sortes. Qu'est-ce qui est interdit, il a différentes sortes. Il y en a six, il en a nommé six. Donc on va les lire ensemble maintenant. Ok? Puis après on va arrêter. Le premier, يكون التشبه بالكفار كفرا إذا كان في معتقداتهم مثل الغلو في الأموات الذين يدعونهم من دون الله عز وجل ويبينون ويبنون على قبورهم الكنائس والمشاهد فإذا وجد في الأمة من يعمل هذه الأعمال فإنه يحكم عليه بالكفر لأنه دعا وعبد غير الله وظن أن غير الله ينفع أو يضر وهذا هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. Donc le cheikh il dit c'est possible que le tashabbuh bil kuffar, que tu imites les kuffars, ce soit un kufr lorsque tu les imites dans leur croyance, dans leur aqida, ça c'est kufr. Comme par exemple lorsque tu exagères à propos des morts et d'invoquer les morts en dehors d'Allah, ça c'est du shirk akbar, une forme de shirk majeur. Ou bien que tu construises sur leurs tombes des églises ou des lieux de culte, des endroits pour prier. Donc si on trouve ça, des nations qui font ce genre de choses là, alors on juge que ce sont des gens qui sont dans le kufr. Pourquoi? Parce qu'ils invoquent autre que Allah. Ils adorent autre que Allah. Et ils pensent ou ils croient que d'autre que Allah peut leur profiter ou leur nuire. Et ça, c'est du shirk majeur qui fait que tu sors de la religion de l'islam quand tu le fais. La deuxième sorte de tashabbuh qui est haram, an yakuna tashabbuh bil kuffar wasilatan ila shirk. وذلك بالبناء على القبور والغلو في الصالحين. Donc ça il dit le cheikh que ça se peut que il y a une forme de tashabbuh, que tu imites les kuffars, c'est pas shirk en soi, mais c'est une cause ou un moyen pour arriver au shirk et pour tomber dans le shirk. C'est-à-dire que quand tu vas le faire, ça va être une chose qui ouvre la porte au shirk pour les gens. Eh bien, c'est comme l'exemple de construire des tombeaux sur les tombes. Des mausolées ou des bâtiments sur les tombes, comme des églises, des oratoires, ou des mausolées, ou des mosquées, ou des temples, peu importe. Tu construis quelque chose sur une tombe, ça rentre dans qu'est-ce qui est haram. Hein, et ça rentre dans qu'est-ce qui peut t'amener au shirk. Donc les ulama ils classifient ça souvent comme une forme de shirk mineur. Mais c'est quand même grave. Et également l'exagération au sujet des hommes pieux, que tu les glorifies mais d'une manière exagérée, ça peut t'amener à tomber dans le shirk par la suite. Donc ça c'est le point numéro 2 ou la sorte numéro 2. الثالث وقد يكون التشبه بالكفار فسقا اذا كان في فعل الكبائر بان يرتكب كبيره تقليدا لليهود والنصارى فهذا يكون فسقا لأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. L'exemple de la sorte numéro 3, c'est que tu fasses le tashabbuh des kuffars dans ce qui est fisq, dans ce qui est une perversité. Et si ce qu'il fait, ça fait partie des grands péchés, c'est la même chose. Donc il fait un grand péché pour imiter les juifs et les chrétiens. Donc dans ce cas-là, on dit que c'est un fisq, hein, et que la personne qui l'a fait, il a commis un grand péché parmi les grands péchés. Rabi'an, numéro 4, la sorte numéro 4, قَدْ يَكُونُ مَعْصِيَةً كَمَنْ يَحْلِقُ لِحْيَتَهُ وَيُوَفِّرُ شَارِبَهُ وَيَتَشَبَّهُ فِي مَلَابِسِهِ وَكَلَامِهِ. Donc le cheikh il met comme exemple, numéro 4, une forme de tashabbuh qui est un péché. Un péché comme celui qui rase sa barbe pour imiter les kuffar. Il dit, moi je rase ma barbe parce que il a été affecté par les sentiments des kuffar qui détestent la barbe. Donc il dit, eux ils n'aiment pas la barbe, donc moi je vais me raser pour les imiter, pour pas que je sois différent d'eux. Et il y en a qui sont des spécialistes, surtout à notre époque. Surtout que tu as vu ça par exemple avec la charte, hein, quand il y a eu les discussions sur la charte, puis quand il y a eu toute la fitna avec ça, puis en Europe c'est la même chose. Ça crée que les koufars deviennent agressifs contre l'islam et contre les musulmans, ils commencent à faire de la fitna par rapport à la religion. Ça fait que les musulmans deviennent susceptibles, puis ils commencent à se dénigrer eux-mêmes, ou bien à cesser de pratiquer certaines pratiques islamiques apparentes, pour pas se faire remarquer des koufars parce qu'ils ont peur de leur réaction. Et donc tu vois, les femmes musulmanes par exemple, avant elles portaient un djilbab avec un niqab et tout, et puis elles vont se couvrir même parfois des gants et tout, puis là elles ont une diminution dans leur foi, donc elles commencent à enlever le niqab, enlever les gants, et sinon il y en a même maintenant, elles ont enlevé le djilbab, hein, ou la robe, maintenant elles mettent des pantalons avec un foulard plein de motifs dessus, des dessins de fleurs ou de je sais pas quoi, puis elles le tournent autour de leur tête comme si c'était une sorte d'emballage cadeau, et puis elles se promènent dans la rue comme ça, comme si c'était une décoration sur sa tête. C'est plus devenu un voile qui a pour but de couvrir les formes du corps de la femme pour éviter de créer de la tentation chez les hommes étrangers ou d'attirer les hommes et les regards. Non, c'est devenu comme une parure, hein. Comme les voiles que les femmes des koufars, les vedettes portent, hein, pour se déguiser ou pour se s'embellir, eh bien, le voile de ces femmes musulmanes-là, c'est devenu une fitna aussi. Ben, c'est-à-dire que ça peut les influencer négativement, puis qu'elles vont voir, ah ben si elle porte le petit voile comme ça, puis que c'est correct, dans ce cas-là, moi aussi je peux faire ça, puis ça va être satisfaisant. Ça va être acceptable. Non, ça c'est pas acceptable. Et comme on disait hier, hein, ce sujet-là, c'est une ibada. C'était avant-hier. Hein. Le hijab, c'est une ibada. Tu peux pas le faire comme toi tu penses, comme toi tu veux. C'est comme la salat. Est-ce que tu peux faire la salat, tu dis, ah ben je vais faire, au lieu de faire 5 rakats, aujourd'hui je suis en forme, je vais faire 10 rakats pour la prière de Maghrib. Non. Ça c'est bid'ah. Donc si ça c'est bid'ah, la même chose pour le hijab. Si tu commences à dire, ben je vais faire le hijab, mais au lieu de faire le hijab comme couvrir tout mon corps au complet, ben les jambes je vais pas les couvrir, ou je vais laisser mon bras dehors, ou je vais pas mettre quelque chose qui couvre tout mon cou et ma poitrine, hein, ou des choses comme ça. Tu commences à prendre une partie puis laisser l'autre. Ça veut dire que tu n'adores pas Allah comme il faut. Soit il faut le faire comme il faut, ou il faut le faire comme il faut. Il n'y a pas d'autre choix. Tu comprends? Oui. Tu es musulman, tu es obligé d'obéir à Allah. Et des choses comme ça, ce n'est pas des petits péchés, c'est des choses graves. C'est comme Cheikh Al-Fawzan il a dit, arrête de la toucher. Touche-y pas, laisse-la. Arrête de couper, tu dis je vais couper un petit peu, tout, coupe pas un petit peu, coupe rien, laisse-la. C'est qui le cheikh qui a dit, oh mais cheikh, si on la coupe pas ça va arriver par terre? Et il a dit, quand ça arrivera par terre on verra. Ouais, mais ça arrive, quand est-ce que quelqu'un a une barbe qui arrive au genou? Ça arrive jamais. Et oui, il y a un frère comme ça, à chaque fois ça lui arrive, il coupe un petit peu, et là, ici là c'est plus long que là, je vais couper ce côté-là pour égaliser. Là, il coupe ici. Là, il coupe trop.
Ah, maintenant c'est l'autre côté maintenant qui n'est pas égal. Là, il coupe l'autre côté. Ah non, j'ai coupé trop. Là, il coupe l'autre côté pour mettre égal. Puis à la fin devient, il ne reste presque plus rien. Donc j'ai dit, laisse, si tu n'avais pas touché au début, c'est pas grave que ce n'est pas égal. Hein? Sinon, tu peux l'arranger, tu le places avec ta main. Hein? Puis ça va s'arranger. Eh non! Donc ça, c'est le point numéro 4. Que tu les émettes dans qu'est-ce qui est haram. Ça, c'est grave. Tu dis, ah, les koufars, tu travailles dans un bureau. Les koufars, ils ont tous veston, cravate. La tenue dans ces endroits-là, c'est qu'il faut que tu t'habilles comme ça. Puis, il ne faut pas que tu sois avec une barbe, parce que la barbe, c'est vu par eux comme étant quelque chose de sale, quelque chose de malpropre. Hein? Donc, nous, on va dire... Ça, c'est votre problème. Vous trouvez que c'est quelque chose qui n'est pas propre. Nous, au contraire, on trouve que la barbe, c'est quelque chose de propre et quelque chose de beau et quelque chose qui embellit les hommes. Comme Aïcha, radiallahu anha, elle a dit, « Zinatul rijal, zinatul rijal. » C'est la parure des hommes. C'est comme la crinière pour le lion. Le lion, il a une crinière. La femelle, elle n'a pas de crinière. C'est l'homme qui a une crinière. Ben, c'est chez le lion, c'est comme ça. Et chez l'homme, c'est comme ça aussi. Hein? Donc, il n'y a pas d'affaire d'imiter les koufars dans ce qui est haram, c'est très grave. Et le cheikh, il dit, numéro 5, وَقَدْ يَكُونُ التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ خَطَأ إِذَا لَمْ يَعْتَقِدْهُ أَوْ قَلَّدَ مَنْ يَتَشَبَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِظَنْ أَنَّ ذَلِكَ مُبَحٍ. Il dit, ça se peut que la personne, elle imite les koufars par erreur. Parce qu'elle elle l'a fait sans avoir l'intention de les imiter, elle ne savait pas. Ou bien, elle les a imités en imitant des musulmans et elle a eu une bonne pensée d'eux. Elle pensait que c'était permis. Parce qu'elle a vu d'autres musulmans faire ça, elle a dit « Ah, ça c'est permis ». C'est comme les filles musulmanes, comme on disait tantôt, filles musulmanes qui mettent des pantalons. Même j'ai vu une femme avec des leggings. Puis un foulard sur ses cheveux. Hein? Tu te dis, ben là, ça devient comme ridicule. Dans ce cas-là, mets un bikini avec le foulard sur la tête. Hein? Si je vais aller à la plage, je vais mettre un bikini, je vais couvrir mes cheveux. Comme si elle pense que le hijab, qu'est-ce qui est ordonné dans le Coran, c'est de couvrir les cheveux. Et que si tu laisses montrer tout le reste, la forme de ton corps, c'est pas grave. Hein? Imagine, tu vois comment ça peut être stupide. Et Allah, subhanallah, à la limite, tu vois les femmes en Arabie Saoudite qui ne sont pas musulmanes, ils ne leur imposent pas de porter le hijab, mais ils leur ordonnent de porter l'abaya, une robe en bas. Mais leurs cheveux sont lousses. Oui, elles laissent leurs cheveux, mais elles mettent une longue robe ample, on ne voit même pas une forme de son corps. On ne voit pas ses seins, on ne voit pas ses fesses, on ne voit pas ses hanches, on ne voit pas ses jambes, la forme de ses cuisses. Non. Mais ses cheveux, on les voit. Parce qu'elle n'est pas musulmane, elle n'est pas obligée de se voiler. Mais les femmes musulmanes, elles font le contraire de ça. Elles montrent ses fesses, ses seins, ses jambes, ses cuisses à tous les hommes dans la rue. Puis elles cachent ses cheveux. Comme si sa fitna, c'était ses cheveux. Ça, c'est quoi cette compréhension? Hein? Je sais pas, peut-être que. Peut-être, je sais pas comment ces gens-là ils pensent. En tout cas, moi je peux dire que. Je veux dire, on est de différents peuples. Chaque peuple, il a des choses qu'il aime. Chez les femmes, des fois, c'est différent d'un peuple à l'autre. Mais pour nous, je sais pas. Dans notre culture, à nous en Haïti, c'est pas les cheveux qui sont les choses qu'on regarde le plus. Hein?
Ouais, les deux ils ont le même nom, je comprends.
Donc c'est ça, subhanallah. C'est bizarre des fois. Des fois c'est ça, ça peut être une erreur. Peut-être la soeur elle sait pas que c'est haram de s'habiller comme ça. Et les hommes, des fois il y en a qui vont dire, ah ben j'ai coupé ma barbe un petit peu parce que j'ai vu un cheikh qui avait à la télé coupé un petit peu sa barbe. Si lui le fait, il le sait mieux que moi. Donc il imite ce cheikh qui est dans l'erreur. En pensant que ce qu'il fait est bon. C'est pour ça que dans notre religion, alhamdoulilah, on ne doit pas prendre comme référence qu'est-ce que font les gens. Tu vois? Mais on prend comme référence qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et qu'est-ce que nos salafs ont fait, hein, quand c'est en accord avec le Coran et la Sunna. Donc des fois c'est ça. Il y a des gens, tu lui dis, ya akhi, ça c'est haram. Il dit, ouais, mais un autre là, il le fait. Ouais, mais même si l'autre il le fait, est-ce que c'est lui la référence? Est-ce que c'est lui qui est le Coran et la Sunna? Ou bien c'est le dalil qu'on doit suivre? Oui, c'est le dalil. Et le fait que quelqu'un fasse un péché, ça ne te justifie pas toi de le faire. Hein? Non, mais il parle de la poignée, là, de prendre une poignée puis de couper en dessous. Parce que Abdullah ibn Omar, il a dit, quand il faisait le hajj, il prenait sa barbe, une poignée en dessous, puis qu'est-ce qui dépasse en dessous de la poignée? Il le coupe. Il l'enlève en dessous de la poignée. Aujourd'hui, c'est en haut de la poignée qu'il le coupe, pas en dessous. Hein? Si tu fais une poignée avec ta barbe, ça ne va même pas dépasser, parce qu'elle est déjà petite. Puis là, tu regardes en haut, tu coupes par en haut. Ben non, ça ne marche pas. Hein? Et c'est pas ça seulement. Déjà, cette parole-là, il y a des ulama qui ont dit ça, c'est chav. C'est quelque chose qu'il a fait lui seul. Hein? Il a contredit les autres sahaba dans cet exemple-là. Hein? Et il y a des paroles des ulama qui clarifient qu'on ne doit pas tenir compte de cet exemple, de qu'est-ce que l'a fait Abdullah ibn Omar. Hein? Puisque c'est en contradiction avec le hadith. Ok? Donc, alhamdulillah. Et le point numéro 6, wal makruh huwa at-tashabbuh bihim fima laysa min af'alihim wa huwa min madhahirihim katarkihim li sabr ash-shayb, wa lidhalika amara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi sabr ash-shayb wa mukhalafatihim lahum kama ya'ti. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qui est makruh, qu'est-ce qui est détestable dans le tashabbuh, c'est de les imiter dans qu'est-ce qui ne fait pas partie de leurs actions mais qui fait partie de leurs apparences, comme par exemple le fait de ne pas teindre la barbe, les poils blancs de la barbe. Hein, lorsque tu as les cheveux blancs, tu mets pas de teinture dedans, comme de henna ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça qu'il dit le cheikh. Tu mets de henna. Tu as le droit de teindre la barbe, mais avec autre que le noir. Hein? Et il dit, parce que le prophète sallam, il a ordonné de le faire. Donc tu dois contredire les juifs et les chrétiens dans ça. Donc on va résumer, on va les redire rapidement pour que ce soit clair. Il y a des catégories de tashabbuh qui sont kufr, qui font sortir de l'islam, car c'est dans leur croyance. Il y a des catégories de tashabbuh qui sont un moyen vers le shirk ou vers le kufr. Dans ce cas-là, c'est aussi dans la même catégorie, c'est quelque chose qui est shirk akbar ou shirk c'est quelque chose qui est kufr akbar ou shirk akbar. C'est quelque chose qui est shirk asrar ou shirk akbar, ou kufr asrar, c'est-à-dire un shirk mineur ou un kufr mineur. Il y en a des catégories qui sont fisq, de ressemblance des kuffars qui est fisq, hein, comme le fait de faire des grands péchés pour imiter les juifs et les chrétiens. Il y a des catégories de tashabbuh qui sont des péchés. Hein, pas des kaba'ir, mais des péchés. Puis, il y en a parmi ces petits péchés-là ou ces péchés-là que ça devient des kaba'ir aussi. Il y a une autre catégorie de tashabbuh qui est une erreur. Tu l'as fait sans vouloir, ou en imitant quelqu'un parmi les musulmans, tu pensais que c'était permis. Et il y a une autre catégorie qui est makruh, c'est que yani, tu les imites dans leur apparence, en abandonnant qu'est-ce qui a été ordonné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça aussi c'est une forme de tashabbuh, mais ça c'est makruh. Donc on voit que toutes les formes de tashabbuh sont pas toutes au même degré, et ça fait pas automatiquement que la personne il sort de l'islam. D'accord? Donc on va s'arrêter ici inshallah pour aujourd'hui, puis on passera au prochain cours à la suite. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين